vraiment très long, je dirais que le sang gicle sous le couperet de la guillotine, dégoutte des corps coupés en deux, coule en hideux ruisselets de pourpre que les sols détrempés de la place de la Révolution, puis du faubourg Saint-Antoine, ne peuvent plus absorber. Des flaques se forment, et pourtant, la République a toujours soif. Comme Moloch, elle en veut toujours. Noyons-nous dans le sang et sauvons la patrie. Citation. Donc, immolons encore, immolons sans faiblir. Sacrifions, je cite, quelques centaines de têtes. La République a encore soif. Elle demande à boire. Mais le peuple, lui, commence à avoir son content. Je cite, au passage des charrettes, on murmurait. Quelques voix, dit-on, avaient crié assez. Fin de citation. C'est le signal encore timide de la fin du sacrifice. Les effets utiles des immolations se sont produits, et là il faudrait revenir au texte, une espèce d'hymne d'un des membres du comité de salut public, terreur salutaire aux saintes terreurs, et il montrera que l'année passée, à pareille époque, tout allait mal, et que maintenant, terreur salutaire aux saintes terreurs, aimable guillotine, la paix règne sur tout le territoire de la République. L'année passée, à pareille époque, la République était déchirée par les factions. L'hydre du fédéralisme menaçait de la dévorer. Maintenant, l'unité jacobine étend sur l'Empire sa force et sa sagesse. Fin de citation. Alors, le moment s'est donc venu de mettre un terme aux libations sanglantes. Et pourtant, l'effusion de sang continue, comme si rien ne pouvait désormais l'arrêter. Tous les historiens des religions et tous les anthropologues qui, depuis le XIXe siècle, se sont penchés sur la question, nous le disent, on ne sort pas du sacrifice comme on y est entré. Il faut des rites pour que ceux qui ont pris part au sacrifice, officiants ou assistants, puissent sortir du cercle magique et rentrer dans le monde profane. D'autant plus qu'au cours des cérémonies sacrificielles, des fautes ont pu être commises qu'il faut effacer afin de revenir à la vie commune ordinaire. Marcel Mauss, d'ailleurs, développera ce point de vue. De peur, j'ajoute, de peur que les germes de violence qu'elles contiennent ne contaminent toute la cité. Ça, c'est ce que René Girard, entre autres, le reprenant aux anthropologues du XIXe siècle et du début XXe siècle, développera notamment dans un de ses premiers livres, « La violence et le sacré ». Dans les lieux où on soif, cependant, le sacrifice appelle le sacrifice. Et rien ne semble pouvoir mettre un terme à cet engrenage fatal qui échappe à la divinité à laquelle il est sacrifié. Il faudra un dernier sang versé, celui des sacrificateurs, une ultime immolation pour arrêter la folie sacrificatoire. Alors, une telle contravention au rituel ne se produit que lorsque le sens du sacrifice, autrement dit sa valeur sacrée, ne parvient plus à contenir les pulsions paranoïaques des sacrificateurs et que ceux-ci se laissent emporter par un délire sanguinaire ou une folie criminelle. Lorsqu'au fond, la pureté du sacrifice est souillée par une impureté profane. Et c'est d'ailleurs pour parer un tel risque que le sacrifice s'entoure d'un carcan de rites à respecter à la lettre dans l'ordre prescrit. Ce type de sortie du sacrifice, tel qu'il apparaît dans Les dieux ont soif de Anatole France, donc ce type de sortie du sacrifice par le sacrifice, qui n'est rien moins qu'orthodoxe et dont on attend qu'elle réenchaîne à l'ordre du monde les forces disruptives déchaînées, a lieu, comme je vous le disais, dans les cas de sacrilège. Alors, pour sortir de la terreur, terme profane pour désigner la phase sacrificielle de la Révolution, il faut donc que les sacrifices décrétés par les membres du comité de salut public soient transformés. Et là, j'attire votre attention là-dessus, parce que vous allez voir quel sens ça va pouvoir avoir ensuite pour Salambeau, soit transformé en sacrilège par ces nouveaux officiants que sont les Thermidoriens. La réconciliation de la communauté se paie donc de l'immolation des Jacobins, au préalable accusés d'avoir faussé le jeu sacré du sacrifice en sacrifiant non sur l'autel de la République, mais sur celui de leur propre passion sanguinaire. Pour que ça marche, pour que le cercle sacrificiel se brise une bonne fois, car tout ceci est évidemment une manipulation des habiles, il est nécessaire d'exonérer la déesse république des crimes commis en son nom, tout en maintenant aux yeux de la populace les nouvelles exécutions dans le régime de sens du sacrifice, c'est-à-dire le sacré. Sinon, le foyer de violence peut à tout moment se rallumer. Donc, si vous voulez, il faut le maintenir. Ce qui va se passer doit être maintenu dans le régime de sens du sacrifice, savoir le sacrifice. Pour cela, donc, il faut accuser les Jacobins, sacrilège suprême, de s'être fait tout à la fois Dieu et sacrificateur. C'est eux qui avaient soif, c'est eux, ces vampires, ces buveurs de sang, ces assoiffés, qui ont calomnié la République en lui prêtant leur abominable potomanie. Donc il ne s'agit pas d'une injure quand on va les traiter de buveurs de sang, d'assoiffés de sang, c'est véritablement un transfert, si vous voulez, qui s'opère pour que leur immolation ne sorte pas de la sphère du sacrifice pour ne pas que la violence continue. Mais aille bien regarder leur supplice, c'est moins un sacrifice expiatoire qu'on offre au peuple qu'un châtiment, ou plutôt qu'une justice préventive qui s'exerce au profit des nouveaux bourreaux, les Thermidoriens. Qu'importe, cet acte se prête à une double lecture, l'une à l'usage du peuple, l'autre à l'usage des fins politiques. Car, comme ont bien fait remarquer Henri Hubert et Marcel Mauss dans leur essai sur la nature et la fonction du sacrifice, 1899, dans le chapitre où ils analysent le rôle social joué par l'effusion de sang, il y a une similitude entre les rites de la peine et ceux du sacrifice. Donc, on voit ici, j'en terminerai avec Anatole France, une utilisation cynique de la mystique du sacrifice, c'est de cela dont je veux parler, hein, une utilisation cynique de la mystique du sacrifice par le politique, qui n'est pas sans rappeler celle d'Amilcar dans Salammbô. Les dieux ont soif, les dieux ont faim, qu'ils s'appellent Moloch, Patrie, symbolisée dans le texte de Joseph de Maistre par la terre qui a soif, ou la République, dans le roman d'Anatole France, il faut donc les nourrir. C'est la condition de toute bonne entente avec eux. Alors, les sacrifices auraient eu pour fonction première de les désaltérer et de les rassasier. Telle est la thèse défendue par Guilani dans son essai « Les sacrifices humains », publié en traduction française dans un ouvrage collectif « Qu'est-ce que la Bible ?» d'après la nouvelle philosophie allemande. La traduction date de 1850. On a dit, et je cite Guilani, on a dit « Le sacrifice sanglant a pour but de réconcilier l'homme avec les dieux. C'est une idée qui n'entre que plus tard. L'idée primitive est « donner à manger aux dieux ». Alors moi j'ajouterais pour ma part, parce que j'étais influencé par le roman d'Anatole France, et à boire. Alors je continue, « L'idée primitive est « donner à manger aux dieux ». C'est peu poétique, dit Guilani, mais c'est naturel et vrai. » Fin de citation. Cette conception alimentaire du sacrifice traverse tout le siècle et on la retrouve chez de nombreux savants allemands, Wilken, etc., anglais comme Fraser, Tyler, etc., français, Marillier, etc., qui, à partir de cette genèse, étudient l'évolution historique des pratiques sacrificielles, de l'immolation sanglante de victimes humaines, des religions archaïques, jusqu'aux formes symboliques du sacrifice, de l'Eucharistie, dans le culte catholique. Peu de questions ont, au cours du XIXe siècle, autant intrigué les historiens des religions, les archéologues, les anthropologues, les sociologues, que celles du sacrifice. D'une part parce que le sacrifice, dont l'origine se confond avec celle des religions, comme en témoignent les plus anciens documents, est un acte religieux. Cette liaison, d'ailleurs, est soulignée à charge par Voltaire, qui en tire argument contre la religion. Le sacrifice est une forme de barbarie, et à décharge par Chateaubriand, pour qui le sacrifice est la grandeur de la religion, pas de culte sans sacrifice. D'autre part, parce que justement, en tant qu'il est un acte religieux, c'est-à-dire en tant qu'acte qui lie, au sens où on reprend l'étymologie religieux, qui lie, relie, resserre le lien communautaire toujours menacé de rupture, le sacrifice est un fait social. C'est pour ça qu'il intéresse tellement au XIXe siècle. C'est ce dernier aspect qui retient les sociologues comme Émile Durkheim, et là je renvoie aux formes élémentaires de la vie religieuse, qu'on a cité, ou les anthropologues, que j'ai déjà cité, comme Henri Hubert et Marcel Mauss dans leur essai sur la nature et la fonction du sacrifice. Ceci, d'ailleurs, en étudiant le sacrifice hors de tout credo religieux, s'inscrivent dans le droit fil des tentatives de rationalisation des historiens de religion de l'école positiviste, auquel il a été fait au premier jour largement allusion, sauf que leur point de vue n'étant ni historique, ni mythographique, ni philologique, mais purement sociologique ou anthropologique, ils ont fait ressortir la fonction sociale des sacrifices. De là à penser que le sacrifice joue un rôle fondateur dans les sociétés humaines, Ce pas qui réintroduit en sous-main une mystique du sacrifice, je dirais que c'est René Girard qui le fait, vous le disiez, dans La violence et le sacré, mais il y a des prédécesseurs. D'ailleurs, il faudrait ici, mais je n'ai pas le temps de le faire, préciser la lecture fonctionnaliste de Durkheim et le glissement du religieux vers le symbolique chez Mauss, qui est extrêmement important. Huber et Mauss ont vu dans le sacrifice une clé permettant de comprendre certains comportements collectifs dont la barbarie de la part d'individus civilisés serait autrement inexplicable. Rejetant comme peu éclairantes les tentatives de classification des sacrifices en sacrifices expiatoires, propitiatoires ou d'actions de grâce faites par les savants anglais ou allemands, ils se sont plutôt attachés à chercher le sens du sacrifice dans les constantes du rituel. Au cours de ce travail, il leur est apparu que, dans tout sacrifice, et voilà sa constante, un objet, quel qu'il soit, victime humaine, animale, prémisse de la récolte, etc., passait du domaine commun, ou si l'on préfère des réalités profanes, dans le domaine religieux, c'est-à-dire dans la sphère du sacré. Et que c'était dans ce passage que résidait la puissance du sacrifice et son efficace sociale. C'est ressouder la communauté, diviser, religarer, faire taire les violences latentes. C'est la découverte de cet invariant contre toute école comparatiste qui leur a permis de poser en principe que, comme je le rappelais, ce qui semble évident, mais qui est essentiel à son compréhension, le sacrifice est un acte religieux. J'y insiste, je vous dis, parce que c'est cette dimension religieuse qui, me semble-t-il, et là, fait défaut dans le récit du sacrifice au dieu Moloch dans sa Lambeau. Car il ne suffit pas de raconter la cérémonie avec un luxe de détails qui fait honneur à l'érudition de Flaubert, autant qu'il révèle d'ailleurs son humour morbide, matiné d'un certain goût pour les écrits du marquis de Sade, pour approcher de l'intelligibilité du sacrifice. Flaubert, et c'est ce que je voudrais interroger ici, manque le sacrifice en ce qui est son essence, le sacré. Flaubert en a-t-il l'intuition lorsqu'il écrit à Ernest Feydeau en avril 1857 « Je crois enfin pouvoir tirer des effets neufs de tout ce tourlourou antique. Quant au paysage, c'est encore bien vague. » Et c'est moi qui souligne, je ne sens pas encore le côté religieux. Toute la psychologie cuit tout doucement, mais c'est une lourde machine à monter. Malgré c'est « je ne sens pas encore le côté religieux ». Je crois que paradoxalement, c'est justement ce manque qui confère à la scène tout son sens. En effet, ôter au sacrifice cette dimension, il n'est plus qu'un acte de sauvagerie collective, une résurgence terrifiante de la bestialité primitive chez le civilisé, un accès de folie inintelligible, un de ces moments de déraison de l'histoire. Ôter le sacré au sacrifice, et il ne reste qu'une pulsion aussi frénétique qu'incompréhensible qui pousse à l'immolation de l'homme par l'homme. En dehors de la sphère du sacré, le sacrifice n'est qu'un meurtre. Mais qu'un prêtre immole un homme sur l'autel du Dieu, et c'est la relation meurtrière entre les hommes qui meurt avec cette immolation. Là est le renversement sacré qu'opère le sacrifice. Là est aussi son irreprésentable. D'où, me semble-t-il, l'échec programmé de la reconstitution purement antiquaire telle que la pratique Flaubert. Le sacrifice se présente en sa nécessaire relation triadique, le sujet sacrificateur, la victime sacrifiée, la divinité, comme un processus hautement symbolique dont le principe essentiel est de communiquer avec le Dieu en établissant, rétablissant la liaison entre les différents ordres de réalité. Parmi les sacrifices, s'il en est un qui fascine autant, pour reprendre les termes de Joseph de Maistre, qu'il nous fait, je cite, qu'il nous fait pâlir d'horreur sa seule idée, fin de citation, c'est le sacrifice humain. C'est généralement dans une perspective tout à la fois comparatiste et historique, si tant est que l'on puisse parler d'histoire pour un déroulé conjoncturel des faits qui doit plus à la reconstruction logique qu'à quelques réalités historiquement attestées, que la question de cette pratique sacrificielle est abordée au XIXe siècle. Alors voilà ce que l'on fait, hein, comment on rétablit le déroulé des faits conjoncturels. D'abord humain, au temps les plus anciens, l'objet du sacrifice serait devenu animal, puis simple offrande. La victime animale de substitution que Yahvé préfère au fils d'Abraham marquerait dans la Bible le signe de cette évolution. D'ailleurs, on en retrouverait quelque chose, une trace, dans un lambeau. Les bras d'airain allaient plus vite, ils ne s'arrêtaient plus. Chaque fois qu'on y posait un enfant, les prêtres de Moloch étendaient la main sur lui pour le charger des crimes du peuple en vociférant « Ce ne sont pas des hommes, mais des bœufs » et la multitude alentour répétait « des bœufs ». Fin de citation. Alors, inutile d'épiloguer sur ce que cette vision des choses doit à la croyance en un progrès moral de l'humanité dont les pages de Flaubert sur la Révolution de 48 dans l'éducation sentimentale, celles de Joseph de Metz et d'Anatole France sur la terreur, dénoncent l'illusion. À quoi il faut ajouter Salambo et ce qu'en dit Flaubert dans une lettre à Amélie Bosquet, 1861, il ne ressort du livre qu'un immense dédain pour l'humanité. Car s'il y a au moins une religion en laquelle Flaubert ne croit pas, c'est bien celle du progrès. Revenons à lui. L'auteur de l'éclaircissement sur les sacrifices, Joseph de Maistre, ne suit pas ce modèle évolutif. Après avoir rapporté de nombreux exemples de cette barbarie puisée dans ses sources primaires ou secondaires, il oppose dans le dernier chapitre à ce qu'il nomme lui-même cette horrible énigme, le dépassement mystique de la barbarie sacrificielle du paganisme dans une christologie de la souffrance. L'apologie de la théorie chrétienne des sacrifices, dont les trois principes sont la culpabilité originelle, la réversibilité et la rédemption par le sang, est le véritable but poursuivi par l'ouvrage. Je cite Joseph de Metz, « Il n'y a rien qui démontre de manière plus digne de Dieu ce que le genre humain a toujours confessé avant même qu'on ne le lui apprenne, sa dégradation radicale, originelle, la réversibilité des mérites de l'innocent payant pour le coupable, donc la réversibilité, et le salut par le sang, la rédemption. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'essai de Joseph de Metz, c'est que sa compréhension religieuse du phénomène du sacrifice lui permet de déceler les traces résiduelles des pratiques sacrificielles païennes dans certaines pulsions meurtrières apparemment profanes dont, dans les temps troublés qui furent les siens et qui luttent à connaître, je pense à la terreur et à la guerre. Ces sacrifices, faute d'être rédimés par une christologie, ne sont que des tueries qui ont pris le masque de ce qu'il y a de plus sacré, le sacrifice. Pas de mystique de la République, révolution, pas de mystique de la terre patrie chez Joseph de Maistre. Et vous allez voir où je veux en venir. Je laisse pour l'instant de côté la question de la terreur. Je reviens à Joseph de Maistre. Je vous dis, ce qui me paraît important, c'est qu'il voit comment ces traces résiduelles de sacrifice, qui apparaissent comme des pulsions meurtrières, ont pris le masque du sacrifice. Alors, qu'est-ce en effet que la guerre ? Au fond, si on lit bien Joseph de Maistre, la guerre, c'est un gigantesque holocauste offert à la Terre, cette divinité cosmique primitive à laquelle, au fond, nous autres civilisés, continuons de sacrifier, comme au jour ancien où les dieux demandaient à manger. Souvenez-vous ce que dit Joseph de Maistre, la Terre demande du sang, et il ajoute, le sang des animaux ne lui suffit pas. Autrement dit, la Terre a soif, la guerre lui donne à boire, qu'un sang impur abreuve nos sillons. C'est à la logique sacrificielle que Joseph de Metz a recours, donc, pour expliquer la guerre. Ce moment de fureur où l'on voit l'homme saisi tout à coup d'une fureur divine étrangère à la haine et à la colère, sans savoir ce qu'il veut, ni même ce qu'il fait, fin de citation, se jeter sur son semblable pour l'égorger. Continue. La terre entière, continuellement imbibée de sang, n'est qu'un autel immense où tout doit être immolé sans fin. Fin de citation. Alors, avant d'en arriver à Salambo et dernière partie, je voudrais revenir un instant à la thèse qui fait remonter l'origine du sacrifice à la conception anthropomorphe que les hommes se faisaient de leurs dieux. Ces dieux, aux passions et aux besoins semblables à ceux des hommes, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, avait besoin de se nourrir. et il revenait donc aux hommes de leur fournir leur nourriture. Que très vite ce service ait été pris dans une relation contractuelle, une sorte de donnant-donnant entre les dieux et les hommes, et que le don se soit transformé en offrande expiatoire ou propitiatoire, qu'il ne soit plus seulement agi de nourriture ou de nourrir le dieu, mais d'apaiser sa colère ou de se concilier ses faveurs en lui offrant les mets qui lui plaisaient, est une fiction anthropologique rationalisante qui rate le cœur de cible, ou l'esprit si vous préférez, du sacrifice, son appartenance à la sphère du sacré, lequel, comme Joseph de Maistre l'a bien vu, est, non pas nourrir le dieu, mais l'immolation. L'immolation. D'ailleurs, une réflexion étonnante, étonnante par son prosaïsme, la fiction de Joseph de Maistre dans son essai sur les sacrifices, si, nous dit-il, il ne s'agissait que d'offrandes destinées à nourrir les dieux, je cite, les hommes auraient envoyé chercher à la boucherie les chairs qui devaient être offertes sur les autels. Fin de citation. Donc, Joseph de Maistre dit, évidemment, il s'agit de tout autre chose. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de sang. Pas du sang libation. Ce qui reconduirait dans l'explication, c'est moi qui le dis, pas du sang libation, ce qui reconduirait dans l'explication du sacrifice la fiction du fait saint, nourrir le dieu. Il s'agit d'un autre sang, il s'agit de l'immolation proprement dite. Il s'agit de l'immolation proprement dite, c'est ce qu'écrit Joseph de Maistre. J'ajoute, là réside l'énigme du sacrifice. Je cite à nouveau Joseph de Maistre, comment les hommes de tous les temps et de tous les lieux ont pu s'accorder à croire qu'il y avait non pas dans l'offrande des chairs, et Joseph de Maistre précise entre parenthèses, il faut bien observer ceci, mais dans l'effusion du sang, une vertu expiatrice utile à l'homme. Fin de citation. Alors, comme je vous le disais, là réside l'énigme du sacrifice, là réside aussi son irreprésentabilité, comme le montre le chapitre de Salammbô intitulé Moloch. Non pas l'irreprésentabilité de l'acte, mais l'irreprésentabilité de ce que Joseph de Maistre appelle sa vertu et qui, tout en lui étant consubstantiel, n'est pas dans l'acte immolatoire et ne se confond pas avec lui. La théorie du sacrifice comme festin offert aux dieux, qui fait l'économie du religieux et du sacré, se trouve dans de nombreux textes de l'Antiquité classique qui décrivent les rituels sacrificiels, à commencer par ceux d'Homère. Pour toute transcendance, la montée jusqu'à l'Olympe de la fumée dégagée par la grillade des victimes. Vous le savez, vous en souvenez, pas d'odeur plus agréable pour les dieux, dont la sensualité très matérialiste consomme mal d'ailleurs avec ce qu'il y a de profondément mystique dans le sacrifice. En tout cas, les Grecs, mais, et là, allusion à un ouvrage très important, mais les Grecs ont-ils jamais cru à leur dieu ? En tout cas, les Grecs pensaient que c'est en leur chatouillant les narines de ce fumet délicieux qu'on se les rendait favorables. Car peu soucieux de la fonction structurante de ces catégories empiriques opposées que sont le cru et le cuit, les dieux aiment tout à la fois le sang et les chairs grillées. Avec la grillade des moutards, formule utilisée par Flaubert dans une lettre, comme vous le savez, de septembre 1861, et très souvent citée, je finis maintenant le siège de Carthage et je vais arriver à la grillade des moutards, qui reprend du sacrifice, donc cette grillade des moutards, qui reprend du sacrifice la lettre de son rituel moins l'esprit, la désacralisation du sacré est accomplie. Le sacrifice se transforme en un monstrueux barbecue humain au cours duquel, mus par un instinct de destruction, les habitants de Carthage se ruent les uns contre les autres. Je cite, « Quelques-uns qui avaient des couteaux se précipitèrent sur les autres, on s'entr'égorgea. » Et vous vous souvenez comment se termine le chapitre, « Même les barbares donc, qui campent au pied des murs n'en reviennent pas, ils regardaient béant d'horreur. » Dans le récit de Flaubert, pas d'odeur. Pas de fumée odorante qui monte vers le ciel comme pour rétablir par ce lien impalpable l'alliance entre les dieux et les hommes. Pas d'élévation, mais une sorte de vapeur, comme il s'en dégage d'une plaque chauffée à blanc sur laquelle on pose un corps constitué principalement d'eau. Les victimes, à peine au bord de l'ouverture, disparaissaient comme une goutte d'eau sur une plaque rougie et une fumée blanche montait dans la grande couleur écarlate. Fin de citation. Rien de mystique, juste les lois de la physique. Pas de transcendance, juste le cérémonial vu en extériorité. Des faits, des sensations visuelles ou auditives, par exemple des braises ardentes, un grand rougeoiement, les grésillements de la graisse, des cris, des rugissements. Le sacrifice est un spectacle, pas un mystère. Un spectacle monstrueux, comme le grand guignol lui-même n'osera en inventer, mais dont l'effroi qu'il suscite le rapproche de ce genre plus que de la tragédie. Car si la terreur est dite, et je cite Flaubert, et le peuple de Carthage haletait dans le désir de sa terreur, elle n'est pas communiquée au lecteur. Nous ne sommes pas donc dans la sphère du tragique. Le seul mystère, donc, de ce spectacle sans mystère, le seul mystère, c'est la contagion de violence et la fureur meurtrière qui s'empare des participants à la cérémonie. Mais ce mystère est sans mystère pour qui fut témoin des atrocités commises par les deux camps lors des journées de juin 48. Le peuple est féroce, c'est lui qui est assoiffé de sang, c'est lui qui réclame le sacrifice au dieu Moloch, moins pour le salut de Carthage, qui lui est relativement indifférent, on verra qu'il ne s'y intéresse pas tellement, enfin, il s'y intéresse que pour autant que son propre sort y est engagé. Donc, que pour la volupté, ce qui l'y intéresse, c'est la volupté du spectacle. Je cite, « La férocité du peuple en était d'avance alléchée. » C'est lui qui n'est jamais rassasié. À mesure que les prêtres, je cite à nouveau, se hâtaient, la frénésie du peuple augmentait. Le nombre des victimes diminuant, les uns criaient de les épargner, mais les autres qu'il en fallait encore, des fidèles arrivèrent dans les allées, traînant leurs enfants qui s'accrochaient à eux, et ils les battaient pour leur faire lâcher prise et les remettre aux hommes rouges. Fin de citation. Hors donc de la sphère du sacré, la loi d'immolation de l'homme par l'homme est totalement incompréhensible. Elle n'est que la manifestation de la déraison dans l'histoire. Flaubert en a donné d'autres exemples, je vous l'ai dit, dans l'éducation sentimentale. Arracher le sacrifice à son espace sacré, la scène tragique où s'opère son mystère, arracher-le à sa temporalité, le temps religieux du rituel, par opposition au temps profane et linéaire du temps historique, comme le fait Flaubert, et vous n'avez plus qu'une hystérie collective. Le sacrifice emplit les esprits d'une terreur sacrée, la grillade des moutards fait simplement frissonner d'horreur, sauf à penser que la surenchère dans la cruauté ne finisse par avoir des effets contre-productifs et que le lecteur ne finisse par en rire d'un de ces mauvais rires qui traduisent le malaise. « J'écris des horreurs et cela m'amuse », écrivait Flaubert à Amélie Bosquet en 61. Propos qui vaut pour le chapitre sur le défilé de la hache comme pour celui de Moloch. Je ne suis pas sûre que l'amusement fût comme il s'en vante au rendez-vous de la rédaction de ces pages. Derrière elle passe le spectre de 48 et du traumatisme qui s'en suivit. On ne voit partout que bêtes sauvages et barbares, que dit-il à propos de cette époque. On sait que devant les horreurs de la Commune, Flaubert regrettait qu'on n'eût pas mieux lu et compris l'éducation sentimentale, entendant par là que la sauvagerie pût être évitée. La remarque vaut pour Salambeau. Il est intéressant, de ce point de vue, de citer ce que Joseph de Metz écrit sur ce moment de folie sacrificielle, ou apparemment sacrificielle, puisque c'est là ma thèse, qui prend le masque du sacrifice, que fut la terreur. Et comme de Maistre ne communie pas dans la mystique du salut public, il le voit dans cet épisode sanglant de l'histoire, que fureur sauvage. Je le cite. Une illustre nation, parvenue au dernier degré de la civilisation et de l'urbanité, osa naguère, dans un accès de délire dont l'histoire ne présente pas un autre exemple, suspendre toute loi d'amour. Que vîmes-nous ? En un clin d'œil, les mœurs des Iroquois et des Algonquins, le sang innocent couvrant les échafauds qui couvraient la France, des hommes frisant et poudrant des têtes sanglantes et la bouche même des femmes souillées de sang humain. J'en arrive à ma conclusion. Il peut paraître surprenant de convoquer l'auteur de l'éclaircissement sur les sacrifices, dont on sait par sa correspondance et par ses notes dans quelle détestation Flaubert le tenait. entre autres, voir la lettre Georges Sand hein, du 3 février 1873. En fait de lecture, je viens d'avaler tout l'affreux Joseph de Metz. Nous a-t-on assez scié le dos avec ce monsieur-là? Ou les termes qu'il use pour parler de lui dans une lettre à Edma Roger Desgenettes, à savoir hideux, exécrable, mossieux de Metz. Tout les sépare. À commencer par le point de vue théologique adopté par Joseph de Metz dans un ouvrage conçu pour s'achever sur la grandeur de la théorie chrétienne des sacrifices. On connaît la rage antireligieuse, ce sont ses propres mots, de Flaubert alors qu'il est attelé à la rédaction de Salammbô et l'opposition. Flaubert ne peut évidemment pas souscrire à la théorie de Metzrienne du sacrifice, c'est-à-dire à la réversibilité, l'innocent peut payer pour le coupable, pas plus qu'à la rédemption par le sang, qui suppose l'une comme l'autre une conception sacrée du sacrifice, lui qui, dans Salammbô, s'est employé à détricoter le sacrifice du sacré pour en montrer la féroce absurdité. Rien ne lui est plus étranger que le cadre conceptuel de Joseph de Metz, qui est celui de l'anthropologie chrétienne. Et pourtant, il y a deux raisons à la convocation que je fais de Joseph de Metz. L'une qui tient à leur source documentaire commune. Alors là, je fais référence aux sources antiques, directes ou indirectes, que Flaubert utilise pour la description de la grillade des moutards, plus tard Tertullien, Diodore de Sicile et même Platon, qui, dans le livre 7 de la République, mentionne un récit fait par Pausanias d'un sacrifice d'enfant fait à Zeus. Bon, là je passe. L'autre a la parenté de leur expérience de l'histoire. La terreur pour l'un, la révolution de 48 pour l'autre. Mais attention, et là je mets attention grand comme ça pour que dans la discussion on ne se méprenne pas. N'entendez pas ce que je ne dis pas, ni ce que je ne sous-entends pas, à savoir qu'il y aurait dans Salammbô une sorte de transposition des événements historiques que Flaubert a vécu. En fait, le rapport aux politiques qui s'y donne à lire est beaucoup plus complexe en ce qu'il passe justement par la question du sacrifice. Alors, en ce qui concerne les sources communes, ouais, je vais peut-être passer parce que comme ça j'arriverai plus vite. Je peux terminer ?
Je peux terminer.
Bon, en ce qui concerne les sources communes, Flaubert, je vais le faire, je m'y emploie. Même si je n'ai plus
tu peux
de
terminer
raison.
En 3 minutes et 45 secondes.
J'ai plus de motifs pressants. En ce qui concerne donc les sources communes, bon, à Demestre et à Flaubert, bon, on peut dire qu'elles sont reprises, sont toujours les mêmes, même s'il y en a d'autres, je ne suis pas allé regarder, parce que ce n'était pas vraiment mon propos. Mais on peut dire que Flaubert leur est fidèle. Il est malgré tout intéressant de noter que Flaubert ne choisit et ne retient des différents récits attestant des sacrifices d'enfants à Moloch que ce qui en accentue la cruauté, le fanatisme religieux. C'est-à-dire que là où certains prétendent, notamment Plutarque, il précise que les enfants déposés entre les bras de Moloch étaient déjà morts, tués par leurs parents, dont le consentement, celui des parents, avait été requis, et que le consentement des enfants aussi était requis, hein, ce qui d'ailleurs témoigne d'une sorte de confiance hein, des enfants abusés. Des exemples récents d'ailleurs confirment hélas l'hypothèse du sacrifice volontaire. Donc là où on dit qu'il y a consentement des parents et des enfants, et que les enfants ont été tués préalablement, évidemment, Flaubert va choisir une autre version qui montre qu'ils sont arrachés brutalement à leurs parents et qu'ils sont jetés vivants entre les bras du dieu Moloch rougi par le feu. Alors, je pourrais multiplier les références, mais là, comme je vous le disais, là n'est pas mon propos. Ce qui m'intéresse, c'est l'hyperbole dans l'horreur voulue par Flaubert. Donc, comme je vous le dis, les enfants jetés vivants contre leur gré. Je vais faire l'économie de la citation, vous la connaissez, on peut quand même le dire.
Ça prend plus de temps de dire que tu ne vas pas le dire.
D'accord,
tu
as raison. les prétéritions sont toujours plus longues.
Et les communes, vas-y.
Enfin, un homme qui chancelait, un homme pâle et hideux de terreur, poussa un enfant, puis on aperçut entre les mains du colosse une petite masse noire. Elle s'enfonça dans l'ouverture ténébreuse. Pas un ne bougeait, ils étaient liés aux poignets et aux chevilles, et la sombre draperie les empêchait de rien voir et d'être reconnus. Les fidèles arrivèrent dans les allées, traînant leurs enfants qui s'accrochaient à eux, et ils les battaient pour leur faire lâcher prise et les remettre aux hommes rouges. Dès la fin du XIXe siècle, les archéologues ont mis en doute l'existence de sacrifices d'enfants au dieu Moloch à Carthage, à l'époque de la guerre des mercenaires. Certes, des ossements d'enfants furent découverts sur le site de la ville, dans un endroit appelé Tophet, place des Criades, que certains textes sémitiques désignent comme le lieu de ces fameux sacrifices, mais ils sont beaucoup plus anciens et encore n'est-on pas sûr de leur origine sacrificielle. Alors là, j'ai des documents que je ne pourrais mentionner dans la discussion, qui montrent que, en fait, ce que l'on a trouvé, ce sont surtout des fœtus, des os de fœtus, etc., ou vraisemblablement dans forme bornée, mais que rien qui n'atteste effectivement l'idée d'un holocauste. Mais la question n'est pas pour moi non plus celle de la vérité scientifique. Donc, inutile que je me transforme en procureur à la Fronnière et que je mette Flaubert à son tour sur le grill. Ce qui compte, c'est que Flaubert, ce que vous a fait figurer dans cet épisode, et que ne se contentant pas de sa vérité éthique et esthétique, il ait voulu en défendre la vérité historique contre Fronnière lui-même. Pour les sacrifices d'enfants, dit-il, il est si peu impossible qu'au siècle d'Amilcar on les brûla vifs, qu'on en brûlait encore au temps de Jules César et de Tibère. S'il faut s'en rapporter à Cicéron, Balbo, et à Strabon, livre 3. Cependant, la statue de Moloch ne ressemble pas à la machine infernale décrite dans Salammbô. Cette figure, parce que ça m'était un des reproches de Fronnière, cette figure composée de 7 cases étagées l'une sur l'autre pour enfermer les victimes appartient à la religion gauloise. Monsieur Flaubert, c'est toujours Flaubert qui répond à Fronnière en parlant de lui à troisième personne, n'a aucun prétexte d'analogie pour justifier son audacieuse transposition. Flaubert continue. Non, je n'ai aucun prétexte, c'est vrai, mais j'ai un texte, à savoir le texte, la description même de Diodore que vous rappelez et qui n'est autre que la mienne, comme vous pourrez vous en convaincre en daignant lire ou relire le livre 20 de Diodore, chapitre 4, auquel vous joindrez la paraphrase chaldaïque de Paul Fang, dont vous ne parlez pas, et qui est citée par Selden, dédiée Siris, page 164-170, avec Eusèbe, Préparation évangélique, livre 1er, fin de citation. Donc, il a des textes. Des textes, dit-il. Pas de prétexte. Excusez, il avait un prétexte. Pas de prétexte. Eh bien, je terminerai là-dessus. Pas de prétexte. Rien n'est moins sûr. Mais pas ceux auxquels songe Fronnière. Et c'est là que mon double détour par Anatole France et par Joseph de Maistre devrait faire sens. Quoique fervent catholique et avocat de la rechristianisation, Joseph de Maistre n'est pas un historien des religions ni un docteur en théologie. Donc rien en principe ne le prédisposait à écrire un essai à prétention historique et théorique sur les sacrifices. Rien. Rien est-ce bien sûr. L'exemple de la terreur comme contre-modèle du sacrifice, ou plutôt comme odieuse caricature, oblige à penser que le texte a été écrit contre toute récupération mystique de la Révolution. Le roman d'Anatole France est plus complexe. La religion du salut public est, dès sa naissance, pervertie par les faiblesses humaines de ses desservants. Dès lors, les sacrifices qu'elle réclame sont sans efficace, et à leur inefficacité, on croit pouvoir remédier par leur multiplication. La terreur devient un sacrifice sans fin parce que sans finalité supérieure en laquelle faire communier la communauté. De ce sacrifice qui n'a pas su trouver sa sacralité, il reste une forte mise symbolique dont les plus cyniques sauront politiquement tirer profit. Ce seront les thermidoriens. Le sacrifice, et je reviens à ce que j'avais dit au début, est un acte religieux qui doit être accompli dans un fervent sentiment religieux. Or, que nous montre Salammbô ? La ruse du chef qui triche avec le dieu, en substituant au sien le fils d'un esclave. L'égoïsme des riches qui cherchent à se défiler. Le fanatisme imbécile du peuple, le tout sur un fond d'idéologie utilitariste. La religion du bien public est une blague. Un Moloch en fer blanc qu'on sort de temps en temps de sa boîte et dont on fait semblant de rougir les entrailles. Je vois donc dans Salammbô, comme dit Cousin, la dénonciation de la mythologie. Vous voyez, ce n'est pas du tout la transposition de ce qu'il aurait pu vivre d'ailleurs. Non, la dénonciation de la mythologie sacrificielle dont s'empare régulièrement et cyniquement le politique pour dissimuler la nudité de sa violence. J'y vois donc une véritable pensée du politique. Et les vraies victimes, ce sont les simples, les dussardiers, qui crient « Vive la République !» ou, dans le roman d'Anatole France, la prostituée Athénaïs, qui écrira « Vive le roi !» et évidemment, à contre-temps. Je termine sur une citation de Flaubert. « Il fut un temps où le patriotisme s'étendait à la cité, puis le sentiment peu à peu s'est élargi avec le territoire. Maintenant, l'idée de patrie est, Dieu merci, à peu près morte, et on en est au socialisme, à l'humanitarisme, si l'on veut s'exprimer ainsi. Je crois que plus tard, on reconnaîtra que l'amour de l'humanité est quelque chose aussi piètre que l'amour de Dieu. On aimera le juste en soi, le beau pour le beau. Le comble de la civilisation sera de n'avoir besoin d'aucun bon sentiment. Ce qui s'appelle les sacrifices seront inutiles, mais il faudra toujours un peu de gendarme. Alors, inutiles les sacrifices? Non, il restera l'art qui, je cite Flaubert, suppose une dévotion comme la religion et sur les autels duquel il faut à la fois sacrifier des victimes, comme Emma Bovary, je ne reviendrai pas à l'analyse du kitsch qui a été très bien faite, et se sacrifier, car dans les théories du sacrifice, les anthropologues montrent comment on passe du sacrifice de victime à l'idée du sacrifice de soi-même. Donc pas besoin de citation, vous en avez toutes de nombreuses en tête sur ce dernier point. Et mes bains de boue, etc. sont foutus.
Merci. S'il te plaît. Merci. Je t'ai déversé un verre.
Ah, t'es adorable. T'es
bien sûr. Bien, merci beaucoup de ce parcours tout à fait passionnant. Et, cette réduction de la dimension sacrée du sacrifice est évidemment fondamentale. En fait, Flaubert reprendra pour le. Tu as parlé du sardier, le terme même de béant.
Oui, absolument, comme pour les barbares.
Qui a été attribué aux barbares. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tu parles de la révolution de 48. C'est quand même la séquence 48-51 qui est en jeu.
Oui,
c'est vraiment
l'ensemble.
48-51. C'est 48-51 qui est en jeu, c'est pas la révolution de 48 seule. Mais maintenant, les questions. Beaucoup, bon, j'en ai plusieurs, mais. Oui.
Peut-être simplement sur votre dernier point, le sacrifice de l'art. Je suis tout à fait convaincu de cette dénonciation de la mythologie sacrificielle. Si on maintient un dernier sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice de l'art, est-ce qu'on n'arrive pas à nouveau à la remythologisation? Et je me demande si le calcotère ne serait pas plutôt l'épuisement. L'épuisement de la série des sacrifices, c'est-à-dire cette machinisation.
Oui.
Et pour ça aussi, il y aurait pas mal, pas mal de choses qu'on peut retrouver dans les correspondances, dans l'autostylisation de Flaubert. Donc, au lieu de se sacrifier, ce serait épuiser toute la série des sacrifices possibles.
Alors, je vous suivrai pas tout à fait jusqu'au bout. Bon, ce que j'ai essayé de montrer, j'aurais pu le dire d'ailleurs en trois phrases, mais c'est souvent le cas dans les colloques. C'est pour ça que je suis très pour les colloques de 5 minutes des Invalides. En fait, ce qui m'intéressait, c'est cette dénonciation de cette mystification la mythologie sacrificielle par le politique, qui fait marcher d'une certaine manière, etc. Et là, je crois qu'elle fonctionne assez bien dans certains textes, comme celui de Salammbô, mais d'autres, peu importe. En revanche, pour ce qui est de l'art, il me semble que très souvent, mais je ne suis pas connaisseur que Pierre-Marc, Anne, toi, etc., il me semble que le lexique religieux qui est souvent employé lorsqu'il parle de l'art, l'idée aussi de cette ascèse, l'idée au fond d'un sacrifice véritablement, puisqu'il y a une partie de sa vie qui est sacrifiée sur l'autel de l'art, fait que quelque chose échappe à cette condamnation rigolarde d'ailleurs, parce qu'il voit bien ce qu'il y a de cynique dans l'utilisation de la mythologie sacrificielle et de la mystique du sacrifice dans le domaine du politique. Mais j'ai l'impression que, alors peut-être que je suis naïve, que quelque chose comme là échapperait à ce regard sceptique et cynique qu'il va porter sur la chose. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez.
Échappe vraiment.
Oui,
parce qu'il n'a pas, cette dimension de soumission au sacré. Voilà. Par contre, ta figure de l'art comme. Pour Flaubert, l'œuvre est un Moloch.
Oui.
C'est-à-dire qu'effectivement, l'œuvre exige.
Absolument. Mais là, on est dans le sacré. Ça. Mais là, ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas une mystification, c'est véritablement le mystère du sacrificiel. Et là, on n'est plus du tout dans le même registre. Alors, on peut se demander pourquoi. Bon, ben ça, il faudrait revenir à tout ce qu'on a pu penser, dire, peut-être de façon, que le romantisme a pu construire, peut-être de manière illusoire, créant une mythologie de l'art, évidemment, et mystique de l'art, pas seulement une mythologie, mais mystique de l'art, qui, à mon avis, est une grande illusion, mais enfin, dans laquelle ils se sont entretenus.
Une deuxième question ?
Oui.
Une phrase, essayer de répondre par une phrase. Bien sûr, c'est présent, mais il me semble que c'est toujours déplacé. C'est un sacrifice qui n'a jamais vraiment lieu, qui est toujours déplacé par quelque chose.
C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, peut-être que l'énigme du sacrifice, justement, on la retrouve dans le fait qu'à partir de ce sacrifice, quelque chose va se produire qui sera l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de transubstantiation, il y a quelque chose qui va s'opérer.
Enfin, oui. Barbara ?
Oui, merci pour ce très bel exposé qui était vraiment étonnant. Et je me demande, tu parlais de l'échec du religieux. Et je me demande si c'est pas.
Pas
comme une perversion du religieux.
Oui.
Parce que l'histoire commence justement avec la réécriture de Isaac, du sacrifice d'Isaac, l'esclave, c'est une réécriture d'Isaac. Et je dis perversion du sacrifice pour deux raisons. Parce que. Reste la victime, il y a une commémorisation de la victime, comme il y a en même temps une espèce de commémorisation du promesse religieux, c'est-à-dire de la possibilité d'un auto-sacrifice. C'est un sacrifice, comme tu l'as vraiment bien démontré, complètement utilitariste, une brutalité, voilà. Mais justement, à travers cet utilitarisme barbare de l'histoire, se profile l'idée ex negativo d'un sacrifice. Donc, je dirais d'un vrai sacrifice, dans ce sens christique, qui est d'ailleurs aussi là, c'est de l'auto-sacrifice. Et je dirais que Flaubert fait deux choses. Il montre cette brutalité, comme tu l'as dit, mais en même temps, ressurge en attente, comme une promesse non tenue, cette autre idée du sacrifice. Et Flaubert, il le fait en réécrivant toutes ces étapes, Ancien Testament, Nouveau Testament, etc., qui réinscrit dans cette démystification brutale.
Alors, je serais d'accord avec toi. Quand je parlais d'échec du religieux, c'était là, je faisais allusion à l'échec de la représentation. C'est-à-dire qu'il y a une énigme du sacrifice qui est par définition irreprésentable. Et que tu as beau multiplier les détails de la cérémonie, quelque chose va être totalement raté, qui est effectivement l'énigme même du sacrifice. Donc c'est en ce sens-là que je parlais de l'échec, c'est-à-dire dans le fait de ramener le sacrifice au récit du cérémoniel. En revanche, ce que tu dis est juste. Bien que je vois deux choses, d'une part, la dénonciation en sous-main, enfin, c'est pas comme ça que ça se fait, c'est pour aller vite que je parle de dénonciation, c'est plus complexe, en disant la mise en question, le doute qui s'instaure à l'égard, au fond, de l'utilisation qui va être faite, et en l'occurrence, quelque chose qui est justement la mystique sacrificielle. Et voilà pourquoi je rappelle, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle, d'une manière peut-être, bon, j'ai peut-être pas dû faire ça, mais que j'avais rapproché ces trois textes, parce qu'il me semblait que ces trois textes, chez De Maistre, on voit bien qu'il n'écrit ça que parce qu'au fond, il y a eu l'expérience de la terreur, même s'il n'y consacre qu'il n'y a que cinq lignes sur la terreur. On voit bien que c'est de ça.
Oui,
mais
De Maistre, déjà,
c'est
la terreur comme
pour
Gérard.
Oui, oui, absolument.
Il y a la danse absolue.
Absolument, absolument, absolument.
Une fois pour tout. Mmh. Alors, c'est une histoire de la
décadence. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais si tu veux, c'est l'idée que, au fond, moi je le dis comme ça, c'est que la terreur peut se présenter comme une longue période. C'est une cérémonie sacrificielle qui a duré longtemps. Bon, elle a duré longtemps, mais elle a pu se présenter comme un rituel sacrificiel. Et c'est là où est la mystification, la manipulation. Tu vois, c'est de cela dont je voulais parler. Voilà, c'est pour ça que je parlais de la violence du politique qui se cache en utilisant la mystification de cette dimension sacrificielle.
Oui. Il y a beaucoup de mystification. Je peux introduire, mais je passe tout de suite la parole, une petite note historique. C'est que, en fait, Flaubert, enfin, à l'époque de Flaubert, l'archéologie du sacrifice à Carthage, ce qu'on savait, c'est qu'il y aurait eu des sacrifices d'enfants au moment d'Agathoclès, et non pas de la guerre
voilà,
des c'est-à-dire bien avant, et qu'en fait, Carthage devait des enfants chaque année à Tyr, c'est-à-dire un enfant, et que les Carthaginois s'étaient mis à élever des enfants
pour les absolument.
Uniquement pour élever, à faire des orphelins uniquement pour envoyer des sacrifices. Oui. Et c'est parce qu'ils avaient trompé dans cette affaire, puisqu'ils faisaient des faux enfants, si je puis dire. Des vrais faux enfants.
C'est la mauvaise foi punique.
Pour les sacrifices.
C'est connu, hein, la mauvaise foi punique.
Donc Flaubert était très au fait de cette mystification. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un sacrifice religieux, c'est une opération mystique.
C'est une ruse, c'est dans un pragmatisme.
Bon, évidemment, il l'aurait introduit au moment de la guerre des mercenaires, oui, oui. Mais il y a cet horizon de la pure mystification commerçante.
Et dès que tu triches avec le sacré du sacrifice, évidemment, tu sors de la sphère dans laquelle la puissance du sacrifice peut avoir se manifester.
Enfin bon, c'est qu'une note, mais ça...
Non, mais tu as raison, je l'avais vu.
Non, c'est Paul qui posait la parole, c'est Paul Petitier.
Moi aussi, j'ai été vraiment passionnée par ce parcours que tu nous as fait faire entre Anatole France, Flaubert et De Maistre. C'était juste une suggestion, c'est... Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un autre sacrifice dans Saint-Marbeau, c'est celui de la fin, celui de Maton.
Mais c'est évident.
Voilà. Et c'est là, du coup, ce qui pourrait peut-être, dans le fond, parfaire la suggestion sur laquelle tu terminais, c'est que ce sacrifice-là, c'est en même temps, c'est la fin de l'œuvre, c'est la sortie du sacrifice.
Absolument. Et c'est un vrai sacrifice. Celui-là est dans la sphère de sacralité. C'est pour ça qu'il est énigmatique. Ainsi mourut la fille d'Améka. On est face à l'énigme où on retrouve quelque chose de la religiosité qui est dans l'inexplicable absolu, dans l'énigme. Là, tu as entièrement raison. Je ne voulais pas rajouter ça parce que ça aurait rendu ce que je voulais dire encore moins clair.
Le corps de cette victime était pour eux une chose particulière et décoré d'une splendeur presque
religieuse. Là, c'est le sacrifice.
Splendeur presque religieuse.
Oui, oui. Mais
Flaubert ne se pense pas complètement.
Oui, mais on voit que ce corps est sorti de la sphère profane et surtout la mort. On est dans l'énigme totale.
Et le cœur offert au soleil, en fait, Flaubert a pris le mythe du cœur. Le mythe du cœur offert au soleil, Flaubert l'a pris au Mexique. Au Mexique.
Des maîtres
décrits exactement.
Oui, mais dans ses notes, il n'est présenté au soleil, entre parenthèses, Mexique.
Il l'a pris à deux maîtres.
Donc à deux maîtres et Mexique.
Il l'a pris à deux maîtres parce que tous ces gens qui s'intéressent au sacrifice humain, ils regardent évidemment les différentes cultures. Et c'est le Mexique qui leur offre le plus d'exemples. Ils vont regarder. Alors il y a plein de choses chez deux maîtres, à la fois dans l'éclaircissement sur les sacrifices et dans les soirées de Saint-Pétersbourg.
Pierre Marc.
Pas de Mexique pour rien, parce que c'est le Mexique se finira par un gros sacrifice.
Ah bah c'est loulou.
Non, c'est
Maximilien.
Ah, c'est Maximilien d'Autriche.
Maximilien.
Eh oui, eh oui, c'est pas Loulou, lui, pas c'est le les Zoulous qui l'ont tué.
Mais c'est après. Hein.
Est-ce que tu vois pas ton scénario, l'hypothèse qu'il y a eu chez Flaubert, l'idée de, après, ce risque de sacrifice qui a été le procès de Bovary, d'inscrire dans ce roman une sorte de maximum de risque.
Bien sûr.
Sûrement la chose, mais ils s'en vantent auprès de ses copains.
Je vais vous choquer.
Je vais vous choquer.
Vous allez voir ce que vous allez voir.
Et je vais choquer les trois.
Oui, vous allez voir ce que vous allez voir.
C'est quelque chose qui a été quand même assez intéressant pour lui. Il n'arrivera pas à produire l'effet de sanction, puisqu'il est trop connu pour, dès qu'il installe dans un jeu de.
Il aurait pu, oui, ce qui est intéressant, toi qui connais bien les textes, c'est vrai qu'il y a cette attitude de bravache, vous allez voir ce que vous allez voir, mais est-ce que ça aurait pu, est-ce que c'était passible de la censure, parce que dans Madame Bovary, c'est une question qui a trait à la morale, pas au fait qu'on écrive des choses qui sont...
La réaction à la formule de Sainte-Beuve, pointe du sadisme.
Oui, c'est ce que je disais, il y a du sadisme.
Il réagit tout de suite quand même en disant attention à ce que vous dites. Parce que...
Autre question.
On y meurt.
Oui, non, c'est le sacré lui-même qui est une mystification.
Oui, bien sûr. Sauf dans une perspective, lorsque tu rentres dans la perspective religieuse, à ce moment-là, il n'y a plus de mystification. Faut être dans cette, oui, dans cette sphère-là. Oui. Eh bien, nous sommes morts.
Sur cette notation très anti-religieuse, je vous remercie.